Visa pour l'inconnu, une émission présentée et proposée par Michel Montbressou et Didier Dumas. Alors mon cher Michel, aujourd'hui nous avons des invités, n'est-ce pas ?
Nous avons des invités qui sont un peu spéciales puisqu'elles sont vêtues d'un habit qui est le leur. Elles vont nous expliquer qui elles sont. Mais permettez-moi de vous dire que nous recevons donc aujourd'hui Sœur Luc Béatrix, responsable de la communauté des Sœurs de Monteil. Notre invitée du mois est accompagnée d'une religieuse de nationalité coréenne, Sœur Marie-Thérèse. Sœur Luc Béatrix a accepté ce long interview qui va suivre afin de nous faire mieux connaître ce qu'est une vie dans un couvent, ce qu'est une vie religieuse, ce qu'elle pense du devenir de l'Église catholique, du célibat imposé aux religieux, aux religieuses et aux prêtres. Ma première interrogation est celle-ci. Qui êtes-vous, mes sœurs ? Autrement dit, présentez-vous.
Qui prend la parole ? Nous sommes des dominicaines, dominicaines de Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire de Monteil. Notre fondateur, Saint-Dominique, a vécu au XIIIe siècle. Alors on peut se demander comment cela se fait-il que, voilà, aujourd'hui, il y ait encore des fondations dominicaines, car nous avons été fondés en 1850 par notre vénérée mère Anastasie. Anastasie qui veut dire résurrection. Et cette mère est décédée un jour de Pâques en chantant. Et elle disait aux sœurs, soyez des Alléluia des pieds à la tête. Alors, quel rapport entre Saint-Dominique et mère Anastasie? Eh bien, tout simplement, nous avons, avec d'autres congrégations dominicaines, nous avons Saint-Dominique comme père en commun, mais nous avons des mères différentes. Voilà. Alors nous sommes les dominicaines du Très-Saint-Rosaire de Monteil, fondées en 1850.
Et l'historique du couvent de Monteil, quel est-il ? Vous voulez prendre la parole ?
Si tu peux.
C'est Sœur Marie-Thérèse qui s'exprime.
Voilà. Si tu peux ajouter cela, fondée pour l'enseignement des filles aux filles et aussi pour les soins des malades. Voilà. Vous parlez de couvent de Monteil et notre congrégation est née à Bord-et-Bar. On appelle oui. À Bord-et-Bar. Après la fondation, il y avait beaucoup de vocations. Il y a des sœurs qui entraient, surtout des Aveyronnaises. Et le couvent a été un peu petit par rapport au nombre qui entrait. Et c'est pourquoi, en même temps, le couvent de Monteil, le couvent de Bord, était très un peu éloigné de transport commun. Il n'y avait pas le train. Et du D'accord. coup, en 1898, nous sommes venus à Monteil grâce à une famille Cabrite. Et monsieur Cabrite était notaire de Monteil.
D'accord.
Dont une fille, dont la fille est entrée dans le couvent de Bord. Et donc c'est lui qui a proposé son terrain et aussi même le fonds pour construire le couvent de Monteil. Et bon. Aussi, pardon, excusez-moi, il y avait aussi une gare. Et c'est pourquoi on a bien choisi de venir à Monteil.
Ah oui, parce qu'il y avait une gare. D'accord, très bien. Là, vous vous êtes présenté, vous nous avez dit ce qu'est le couvent de Monteil. Moi, j'ai fait votre connaissance il n'y a pas longtemps. Et je vous remercie d'avoir accepté de venir à cette émission. Et on va déjà rentrer directement dans les questions qui nous préoccupent. Comment voyez-vous le devenir de l'Église, l'athéisme devenant majoritaire en Europe et ailleurs, dans les pays occidentaux, dans les pays où la religion chrétienne faisait force de loi? Ce n'est plus le cas. Parlez-nous de ça. Comment vous voyez?
Eh bien, on a souvent tendance à voir ce qui ne va pas trop bien, ce qui est difficile, etc. Quand on regarde l'histoire, on voit bien que l'humanité, comme l'Église qui suit l'humanité aussi, elle est de l'humanité. Il y a des hauts et des bas, ça monte et ça descend. Alors actuellement, on sort d'une période qui était un peu en contrebas. Mais si vous avez dû le voir dans les nouvelles partout, il y a actuellement un renouveau vraiment spirituel au niveau de la jeunesse. C'est absolument incroyable. Donc il y a, c'est peut-être en train de remonter, de se développer. Mais les sinuosités, les montées, les descentes font partie de toute vie et de tout groupe. Tout simplement. Alors moi j'ai beaucoup d'espérance parce que il y a l'Église qui est en chemin sur la terre, mais il faut regarder aussi comment elle va aboutir. Quand on pense à, il suffit de regarder l'Épiphanie. Moi, ma maman avait une, elle aimait beaucoup la fête de l'Épiphanie. Et c'est vrai, on voit la Jérusalem en marche, mais qui a au bout de la route, on voit tous les peuples qui affluent vers la Jérusalem. L'Église, justement, c'est cette nouvelle Jérusalem qui peine sur le chemin, bien sûr, il y a la croix, il y a des difficultés, mais il faut regarder loin, il faut regarder l'horizon et savoir où on va, et on va vers vraiment la lumière, le bonheur. Voilà.
Oui, mais peut-être que la religion, à l'époque, il n'y a pas si longtemps, avait force de loi, et c'était peut-être un peu excessif, et peut-être qu'il était bon que la laïcité prenne aussi sa part, sa place dans notre société. Chacun a sa place.
Oui, bien sûr, parce qu'il y a toujours, dans notre humanité, il y a toujours des excès. On part dans un sens, on va un peu trop loin. On est quand même tous des pécheurs aussi. On n'a pas, on ne marche pas toujours droit. En tout cas, l'orgueil ou la suffisance, etc., peut nous guetter aussi. Alors de temps en temps, c'est vrai, il y a des coups de barre pour nous remettre un peu dans l'humilité, dans la vérité.
Absolument, parce qu'il y avait tout de même, je me permets de le redire, mais il y avait, je l'ai connu, un autoritarisme dans l'Église qui n'était pas très porteur d'envie de continuer dans cette situation. Je trouve que c'est quand même mieux comme ça, et alors il se régularise, les choses se régularisent, vous nous dites, et c'est vrai qu'il y a des vocations, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, beaucoup, mais il y a quand même des vocations. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaissait auparavant, mais peut-être que les vocations sont plus sincères que ce qu'elles n'étaient, puisqu'avant il y avait les familles nombreuses qui envoyaient automatiquement des jeunes filles ou des jeunes hommes pour être prêtres religieux, religieuses. Bon, les choses ne se font plus comme ça, et on est dans une Église qui est dans une purification, me semble-t-il, et puis dans un vrai. Autrefois, c'était, me semble-t-il, c'était un petit peu différent quand même, un petit peu pyramidal. Mmh. Là, c'est beaucoup plus dans l'échange. Vous êtes beaucoup plus abordable.
Oui. Mais, vous savez, l'Église... L'Église, d'accord, mais dans les familles, il y avait aussi l'autorité. C'était partout, c'était toute la société qui était un peu autoritaire. Le pater familias, attention. Hein. Mmh. Donc, la prieure d'une communauté aussi. Il y avait des règles, il y avait établi, etc. Mais vous avez raison de dire qu'il y a une purification qui se fait, il y a une croissance qui se fait. Et actuellement, je pense que Sœur Marie Terza est d'accord, on vit des temps plus, peut-être plus fraternels, c'est vrai.
Oui, il me semble.
Des relations plus fraternelles,
jour,
plus ouvertes.
Je suis venu chez vous, je n'étais jamais venu. J'ai trouvé extraordinaire la manière dont il y a eu des mélanges de nous avec vous et de vous avec nous.
Ah oui.
C'était vraiment gentil, c'était super.
Ah oui.
Ah oui, moi je me suis régalé là, cette journée.
Mais
ah
c'est bon. Vrai aussi que l'époque, même dans le milieu de l'école aussi, il y avait plus d'autrefois. Il y avait donc plus de sévérité, si on peut dire,
oui.
Beaucoup de discipline, mais c'était l'époque. Et maintenant, l'Église aussi suit, la vérité ne change pas, mais suit aussi selon
l'évolution de la société.
L'évolution de la société.
Mais,
et justement, à cause de, donc, grâce à cela, je pense, pour, par exemple, quand vous avez parlé que les sœurs que vous avez découvertes sont vraiment plus accueillantes, abordables, mais aussi parfois... on reste dans l'ignorance, je ne sais pas comment on peut dire, on reste dans l'image de médias. Parce que parfois, dans le film ou ailleurs, on montre la religieuse, l'Église très sévère et tout cela. Mais ce n'est pas seulement vous que vous avez dit, les sœurs actuellement, qui sont plus accueillantes, plus joyeuses, plus abordables, parce que justement, c'est par manque de manque de rencontres aussi, et aussi il n'y a pas beaucoup d'occasions peut-être de cette occasion de parler de la vie religieuse qui était peut-être parfois le je n'ose pas dire de défigurer, mais en tout cas restait beaucoup d'images de dans le média ou dans les films qui un peu caricature de la vie religieuse.
Non mais ça, il n'y a pas que vous qui subissez ça. Hein. Il faut faire avec. Vous êtes là pour nous ramener dans le droit chemin de ce qu'il faut penser.
Mmh. J'aimerais qu'on dise un mot sur la tolérance, parce que c'est un mot qui est important. Mais quand on parle de tolérance, on ouvre aussi toutes les opportunités, on ouvre toutes les portes, et on permet à tout le monde de s'exprimer. Et là, ça commence à devenir compliqué. Parce que tout le monde s'exprime, et on a le problème qu'on subit tous, hein, par le flux des informations, maîtrisé ou pas maîtrisé, ou imposé, comment fait-on pour distinguer le vrai du faux? Comment reconnaît-on le bon chemin du chemin qu'il ne faut pas prendre, surtout ne pas prendre parfois?
Elle n'est pas facile la question, mais elle est très intéressante. Nous vous écoutons.
Mais écoutez, d'abord, je suis d'accord avec Sœur Marie-Thérèse pour les idées qu'on peut avoir en tête. Parce que moi, je ne voulais surtout pas être religieuse, mais surtout pas, parce que justement, j'avais des idées dans la tête qui étaient très négatives. Hein. On a les cheveux rasés, on mange que des nouilles, enfin des choses comme ça, qui étaient, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bon, donc c'est vrai. Mais aujourd'hui, pour voir le vrai du faux, ça c'est vrai que c'est une question, hein, avec toutes les fake news, là, etc. Hein, on ne sait pas trop bien. Alors je crois que le mieux c'est de rester tranquille et puis de voir un peu dans quelle direction sont ces nouvelles. Parce que tout est fait quand on ouvre son écran, là, tout est fait pour... Il y a 36 réclames, il y a 36 choses, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Le mieux c'est de rester très calme et puis... Et puis, je ne sais pas, moi, d'aller dans des sites un peu plus sûrs. Quoi.
C'est un chemin, le calme, la paix. C'est un chemin.
Oui.
Et en fait, le refuge d'une congrégation, c'est aussi de se retrouver en paix, quoi, quelque part. Avoir un environnement apaisé.
Il ne faut pas croire ça. Non.
Alors,
religieux, attendez, ça bouge.
C'est intéressant de le savoir. Ouais.
Oui. Voilà, on n'est pas tranquille dans son petit coin, dans un parc de verdure, là, vous savez. On a de quoi.
Non, mais je pense que le propos qui t'a été tenu pour mon ami Didier, c'est de vouloir parler plutôt d'une sérénité que vous avez, que vous transmettez. Mmh. Est-ce que je suis.
Mais on est ouvert à toutes les questions et à toutes les réponses. Alors, du coup, votre réponse est plus intéressante que la question. Non,
c'est... Bon, vous parlez de stérilité, c'est ça?
Oui, mais je trouve que la religion catholique amène une sérénité. Et lorsqu'on a acquis des convictions. Non pas pour se réfugier par peur de la mort ou je ne sais quoi, lorsqu'on connaît bien ce qui est diffusé et qui est peut-être mieux diffusé maintenant que ça ne l'était, parce que moi je le perçois comme ça, je crois qu'on retrouve, enfin moi ça a été mon cas, un sens à la vie. On se nourrit, on acquiert je ne veux pas dire certitudes, mais des réponses. On a des réponses aux questions parce que quand même, qui sommes-nous? D'où venons-nous? On n'est pas là par hasard. Alors peut-être qu'il faut chercher à savoir d'où on vient. Pour moi, il y a une intelligence d'amour qu'on appelle Dieu ou Allah ou autre, qui a voulu que nous existions.
Oui.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, mais aussi je reviens aussi à la question de vrai et faux par rapport à dans les médias qui donnent toutes les informations qu'on donne. Moi, je pense pour connaître, pour distinguer entre le vrai et la faux, moi, je dirais que est-ce qu'il va dans le sens de la vie? Parce qu'on dit beaucoup, actuellement, il y a la société de la mort et on parle de cela. Mais, pardon, il faut voir est-ce que tout cela amène à me faire vivre. Voilà. Donc, si on va dans le sens de la vie, justement, la vie que nous avons reçue, c'est de la part de Dieu, comme vous avez dit. Et d'un côté, donc, je voudrais répondre à cette question. Et deuxième point, comme vous avez parlé de la vie religieuse qui mène à la paix, tout cela. Mais avant tout, il y a un appel. Voilà. Oui. Donc, ce n'est pas on cherchait un couvent pour avoir la paix ou être paisible, ça ce n'est pas en premier, c'est premier lieu, c'est à l'appel. Il y a un appel
Cet appel, vous l'avez perçu comment, vous Sœur Marie-Thérèse qui nous venait de la...
De la Corée.
De la Corée, pardon.
Oui, et justement, ma vocation qui remonte à l'âge de 15 ans. J'ai rencontré une religieuse très joyeuse et très rayonnante.
Épanouie,
rayonnante, et dans ma paroisse. Et moi, j'ai été baptisée seulement à l'âge de 8 ans. Toute ma famille qui a été baptisée au fur et à mesure, à l'âge de 8 ans. Et à cette époque-là, à l'âge de 15 ans, c'était en pleine adolescence. Et du coup, j'étais très timide. Et quand j'ai vu cette sœur, j'ai dit, comment cette sœur était si joyeuse, si rayonnante. Et mais comme j'étais un peu timide, je n'ai pas osé lui demander. Je le suis un peu moins maintenant. Et c'est pourquoi je lui ai écrit, de retour à la maison, je lui ai écrit, comment faire pour devenir une religieuse comme vous. Et cette sœur qui m'a répondu en disant, tu es encore jeune. Mais si le Seigneur t'a appelé, continue à le prier et médite ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu, la parabole des 10 vierges, 5 vierges sans sages, on appelle 5 vierges insouciants. Bon, je n'ai pas beaucoup compris, mais ça fait rien. Et comme elle a dit, ce que le Seigneur a commencé en toi s'accomplira en son temps. Et j'ai gardé encore cette lettre de cette sœur. Et j'ai donc suivi ses conseils en priant. Surtout, j'ai beaucoup récité le chapelet en allant, en revenant du collège et du lycée. Puis j'ai poursuivi mes études. Et comme le dit le proverbe au Portugal, Dieu écrit droit avec des lignes courbes.
C'est ça que vous dites.
Voilà, Dieu écrit droit avec des lignes courbes.
Okay.
C'est ça. À travers les diverses rencontres et des événements dans la vie, il a accompli son dessein sur moi jusqu'à mon arrivée à Monteil en 1988, où j'ai trouvé les sœurs joyeuses, heureuses, qui m'ont rappelé le souvenir de mes 15 ans. Et maintenant, depuis, je suis très heureuse, comme un poisson dans l'eau, parce que j'ai redécouvert que je suis aimée de Dieu, sans condition, dans sa miséricorde, et je l'aime, et j'aimerais aimer pour toujours, et avec mes sœurs que j'aime.
Bah écoutez, c'est un beau témoignage.
Voilà, c'est magnifique. On va rester en suspension sur vos propos pour écouter quelques notes de musique. Même si elles sont exotiques, vous allez comprendre pourquoi je dis cela.
Soy extranjero, soy un hombre ilegal, soy sudamericano, a otra tierra yo llegué, y en la ciudad giré, recorrí yo mucho mundo, pero ilegal quedé, cruzaba la frontera, guitarra en la mano, poco dólar, poco amor, calando yerba en un rincón, llegó la policía, guay, 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 ahí viene, guay, 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 ahí llega la policía, nene, a la policía, nene, que ahí viene y me lleva, guay, 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 ahí viene, guay, 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 ahí llega.
Vous êtes à l'écoute de CFM Radio dans l'émission Visa pour l'inconnu, animée par Didier Dumas et Michel Montressouze, moi-même. Didier Dumas, mon ami. Merci. Nous recevons aujourd'hui deux religieuses, sœur Luc Béatrix, qui est responsable du couvent de Monteil, tout près de Villefranche-de-Rouergue, et elle est accompagnée de Marie-Thérèse, qui nous vient de Corée. Elle nous vient de Corée. Corée du Nord ? Non.
Corée du Sud. Oui. Parce que vous savez, l'an prochain, nous accueillons des GMGistes à Séoul, l'an 2027. Et pour l'instant, en tout cas, je me suis présentée comme interprète pour le groupe de Rodez. Il y a 60 jeunes de diocèse de Rodez qui sont pré-inscrits déjà.
Ah ben c'est bien. On l'a dit tout à l'heure dans le sujet des vocations. Et la responsable, donc, avant on disait la mère, on ne dit plus ça. Vous voulez
non,
pas
non,
qu'on
maintenant,
vous
amène... on simplifie beaucoup, on dit sœur.
C'est plus aimable. Alors, nous vous écoutons, sœur Luc Béatrix.
Ah ben écoutez, moi je m'appelle sœur Luc Béatrix, justement c'est un nom un peu spécial. Mais
oui, pourquoi ?
Je suis l'aînée de 11 enfants et je m'appelais Béatrix dans le monde et mon dernier petit frère s'appelle Luc. Donc, quand j'ai fait profession, j'ai demandé d'avoir le nom de Luc Béatrix pour prendre tous mes frères et sœurs dans mon nom. Voilà. Mais quand j'ai compris que je devais être sœur, j'étais pas contente du tout. Je me disais, vraiment, on est 11 enfants, il a fallu que ça me tombe dessus.
Mais comment ça se fait que ça vous est tombé dessus ?
Pourquoi ça m'est tombé dessus ? Je me le demande encore. Je ne sais pas encore pourquoi je suis à Monteil.
Non, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez mécontente ?
Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu quand même un petit événement, c'est-à-dire que je travaillais à Paris dans un laboratoire avec des collègues, là. Il y en a une qui m'a dit, oh ben voilà, moi je connais une sœur, là, une fille qui va prendre l'habit à Monteil. Est-ce que tu veux venir avec moi ? Voilà, de Paris à Monteil, bon, quand on est jeune, c'est pas grave. Et moi, j'avais une amie qui se mariait à Grenoble. Alors, je lui dis, voilà, on va toutes les deux, on va faire le voyage, on va aller toutes les deux à Monteil, la prise d'habit, et toutes les deux après pour le mariage, tout simplement. Bon, alors c'est ce qu'on a fait. On est parti de nuit dans une deux chevaux, bien sûr. À ce moment-là, c'était comme ça. Et puis voilà. Et puis, c'est resté comme ça. Puis, au bout de 2 ans, pendant que j'étais en train de faire une courbe, là, au laboratoire, tout d'un coup, je me suis dit, j'ai ressenti, il faut que je rentre à Monteil. J'avais pas tellement envie de Monteil, j'avais trouvé qu'il y avait de la joie. Ça c'est vrai, vous voyez, comme sœur Marie-Thérèse, dans la vie dominicaine, on aime beaucoup la joie. Et alors, j'avais trouvé la joie et la lumière, la vérité et la joie, ça va ensemble.
Oui, c'est donc ce qui vous a décidé à répondre
Ça m'a décidé, ça veut dire que je ne pouvais pas faire autrement. Je sentais qu'il fallait que je fasse ça.
Sinon,
c'est un appel.
Voilà, c'est pour ça qu'encore je me demande pourquoi je suis là, mais je suis là parce que j'ai senti quelque chose qui me disait, voilà.
Bah, alors, est-ce que vous avez des regrets ?
Aucun regret. Alors, mes parents m'ont conduit du Pas-de-Calais, parce que je suis du Pas-de-Calais, m'ont conduit du Pas-de-Calais jusqu'à Monteil, dans la voiture, là, oh là là, il n'y avait pas un grand silence, tout ça, bon. Et moi, je me disais, voilà, Dieu seul, Dieu seul, Dieu seul, Dieu seul, voilà, c'est tout, et voilà. Et puis, on est arrivé. Et après, bon, j'ai beaucoup pleuré quand ils sont partis, bien sûr. Mais oui, après, voilà, rien du tout jusqu'à maintenant. J'étais très heureuse, comme dit Marie-Thérèse aussi. J'ai été très heureuse, j'ai fait des choses incroyables. Et voilà, des choses incroyables. Parce que je voulais surtout, j'aimais beaucoup voyager, découvrir le monde, etc. Je me suis dit, avant de rentrer dans le couvent avec le couvercle qui va se fermer, vous voyez les idées qu'on a. Je me suis dit, ça sera fini les voyages. J'ai fait un grand voyage jusqu'en la Turquie, l'Iran, l'Irak, la Syrie. Ce qui fait que maintenant, pendant les nouvelles, ça me dit quelque chose, là voilà.
Ouais.
Et je suis rentré. Mais depuis... J'ai beaucoup voyagé. J'ai été au moins 5 fois au Brésil, du sud jusqu'au nord. J'ai été une dizaine de fois en Extrême-Orient, en Corée, au Vietnam. Voilà. Donc vraiment.
On vous imagine contemplative, mais en fait.
Mais en fait.
C'est tout autre chose.
Comme disait Marie-Thérèse aussi, nous sommes. Il y a une vie contemplative. Nous avons une vie liturgique quand même très encadrée. Les laudes le matin, la messe, l'office du milieu du jour, les vêpres, les complies. Vous voyez, on a un cadre liturgique très quand même important, hein, et que nous partageons en commun. Parce que pour nous, la vie commune.
Alors,
est-ce que
vous en avez pas marre des fois?
Quelquefois, c'est vrai que quelquefois, on est fatigué. Oh non, pas du tout. Non.
C'est intéressant de vous entendre. Parce que nous, on suppose des choses qui ne sont pas. C'est quand même bien que vous nous disiez, vous, les intéressés.
Oui, parce que vous savez, nos offices, nous sommes les filles d'un Espagnol. Dominique était un Espagnol. Alors, à chaque psaume, on chante gloire au Père en s'inclinant, on fait des processions. C'est pas du tout triste, c'est pas du tout embêtant. On n'est pas tout le temps assis, Non, on se lève, on s'incline, on se rassied, là, bon, n'est-ce pas, hein?
Du coup, en dehors du rythme liturgique et des rendez-vous quotidiens, comment occupez-vous vos journées?
Bon, alors allez-y, j'ai pris la parole.
Cela dépend de la responsabilité qu'on a reçue. Et parce que quand on est responsable d'une communauté, comme tout à l'heure, Sœur Béatrice a dit, où vous avez demandé, en tout cas, il y a un moment qu'il n'y a pas de marre, je ne sais pas comment vous avez exprimé ça. Mais ça veut dire, c'est vrai, il y a des journées fatiguées, parce que quand on est responsable, il y a beaucoup de choses à, non seulement en dehors de ces prières, mais on fait dans la prière tout ce qu'on nous a demandé de le faire, ou ce qu'on a reçu, les rôles. Donc selon la charge qu'on a reçue, et par exemple, il y a des sœurs qui s'occupent de l'enseignement. Et maintenant, l'enseignement chez nous, nous avons des écoles et tout cela. L'enseignement religieux dans les écoles. Il y a des sœurs qui font les catéchèses. Nous avons ici aussi une sœur, Anne-Marie, qui fait le cathé à Villefranche, à Sabignac, aux écoles. Et il y a des sœurs qui s'occupent donc de préparation de ces enseignements. Et aussi, il y a des sœurs qui s'occupent du jardin. On a besoin aussi. Il y a des sœurs qui s'occupent aussi de la cuisine, de tout cela. Et donc, chacun organise en dehors de ses horaires régulières. Et chacun voit ce qu'on doit faire selon sa responsabilité. Et moi-même, je fais beaucoup de...
Je la présente parce que Sœur Marie-Thérèse est provinciale. C'est-à-dire qu'elle est responsable de plusieurs communautés, vous voyez ?
En France, nous avons 10 communautés, et donc je circule beaucoup. Et nous avons aussi la province... Alors tout à l'heure, Sœur Béatrice a parlé, une fois qu'elle est entrée dans la congrégation, elle a beaucoup voyagé au Brésil, et on se demandait pourquoi. Parce que nous avons justement... nos sœurs avéronaises qui sont parties en 1885, vraiment dans la terre inconnue, lointain au Brésil. Et depuis 1885, il y a 80 sœurs qui sont allées en mission au Brésil. Et donc, nous sommes fiers de nos sœurs qui sont données vraiment. Au début, c'est vraiment, elles sont parties vraiment pour toujours. Et du coup, nous avons une province au Brésil, à peu près actuellement 120 sœurs, et notre prieur général qui est brésilienne. Et ensuite, nous avons une province, on appelle la France la Cordère, et nous sommes aussi à peu près 90 sœurs, et avec donc 10 communautés en France, 4 communautés au Vietnam et une communauté en Corée. Donc
Je dis
aux sœurs, aux personnes, en disant qu'est-ce que c'est le provincial. Je dis, je fais le service à domicile. Donc, je suis à la rencontre de nos sœurs. Et après, nous avons aussi une province au Vietnam avec 90 sœurs. Donc, notre congrégation représente à peu près 300 sœurs. Et du coup, il y a l'occasion de voyager pour les réunions ou l'autre, du Brésil, au Vietnam ou en Corée. Alors moi, tu parles donc selon donc la responsabilité, on s'occupe de la journée, et ainsi aussi comme le temps d'une famille aussi, il faut faire le ménage. Voilà. Et moi, tu parles, pardon.
Non, Je ne veux pas vous couper. Mais je voulais vous demander, sur le plan financier, comment ça se passe? Comment vous arrivez à vivre?
Sur le plan financier, eh bien, il y a le travail des sœurs d'abord, bon, parce que chaque communauté a quand même une charge et elle loue quelquefois des locaux. Enfin,
il y a des foyers.
Il y a des foyers d'étudiantes. Oui, c'est ça.
Et aussi, par exemple, nos sœurs qui font le catéchisme dans l'école, on appelle l'indemnité congréganiste. Et donc, l'école, avec une association, le Blochek, qui nous donne aussi, et puis aussi avec le patrimoine, parce que nous avions beaucoup de maisons, donc aussi, après, quand on pas manque de vocation, et on ferme des maisons, et donc il y a le...
Oui, pour l'instant, c'est un peu ça.
Le produit des ventes, non?
Comment?
Par exemple, quand on ferme une communauté, on vend les maisons, donc on vit un peu de la patrimoine aussi.
Oui, on vend un peu le patrimoine en ce moment.
Oui, d'accord. Ok. Moi, je voudrais quand même qu'on revienne à ce que vous représentez. Je vais directement poser une question que beaucoup de gens se posent. Que se passe-t-il après la mort, d'après vous?
Vous voulez répondre, Sarah?
Moi, je dirais après la mort, mais je parlerai plutôt... c'est une suite de la vie. Voilà. Tu penses, la mort, ça fait partie de la vie. Donc, c'est un passage à vivre. Et c'est pourquoi c'est comme, moi je parle par exemple, une sœur une veuve qui est entrée à la congrégation, à la province, sœur Michel-Marie, qui était l'infirmière de sage-femme. Et elle a était mariée, elle n'avait pas eu enfant à son propre enfant, elle a été mariée à un veuve, et elle a vécu avec elle a vécu très heureusement avec son mari, et qui est décédé après le départ de son mari. Elle a reçu vraiment une vocation vraiment très tardive, on peut dire, et un appel de Dieu vraiment très fort pour elle, donc elle est venue. Je ne peux pas parler de tout cela, mais elle est rentrée donc au couvent chez nous, et elle a vécu vraiment pendant 20 ans de la vie religieuse à Lourdes, et très particulièrement dans sa vie de la vie religieuse. Pourquoi? Parce que elle était directrice d'une clinique de la maternité, et malgré ça, elle a tout donné au Seigneur. Matériellement, et après, elle a été vraiment un beau témoignage de la vie religieuse. Et elle a dit, dans ma profession, j'ai aidé à naître des enfants sur la terre, et quand elle était à Lourdes, parce que nous avons une maison de retraite, j'ai aidé à naître les personnes au ciel. C'est très beau.
Oui, mais le ciel, c'est quoi? Vous considérez qu'après la vie terrestre, la vie du corps, il y a une vie de ce que vous appelez l'âme, il y a une vie de l'esprit. C'est quoi qui se passe après?
Le Christ est mort et ressuscité, et il nous a donné les promesses de cette résurrection, puisque nous sommes son corps, nous ressusciterons avec lui. Et la résurrection, bon... Il faudra la vivre pour savoir exactement ce que c'est. On ne peut pas savoir vraiment ce que c'est. Mais c'est une vie complète, une vie totale. Voilà, nous sommes faits pour vivre, vraiment.
Je vous propose, si vous permettez, un morceau de musical qui s'appelle Even. Et pour ceux qui ne comprendraient pas ce terme anglais, ça veut tout simplement dire paradis.
Young and wild and free. Now
Visa pour l'inconnu sur CFM Radio 90.2 Villefranche 101.6 Figeac. Vous êtes à l'écoute donc d'une émission qui nous fait plaisir aujourd'hui parce qu'on reçoit des personnes qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter. On sait qu'elles existent, mais on ne les voit pas beaucoup. Et il s'agit de Sœur Luc Béatrice, qui est responsable de la communauté des Sœurs de Monteil près de Villefranche de Rouergue, et de Marie-Thérèse, qui a des responsabilités dans cette communauté. Alors, moi, j'ai une question qui me taraude, et je voudrais bien que vous y répondiez, parce que moi, je n'ai pas la réponse. Alors, voilà, je l'ai noté, donc je me lis. Qui a donné les codes aux oiseaux pour faire leur nid? Pourquoi la vilaine chenille devient le beau papillon? Pourquoi le grain de blé qui pourrit en terre et qui devrait ne plus être, ne plus exister? Pourquoi ce grain de blé pourri donne un épi qui compte une vingtaine de grains de blé? Pourquoi? Comment le comprenez-vous? Comment faut-il expliquer? Qui est derrière tout ça? C'est à vous de nous répondre.
C'est-à-dire que la nature est vraiment un chemin de beauté, d'émerveillement. On ne peut pas résoudre tous les pourquoi, mais tous ces éléments naturels, que ce soit les oiseaux, les insectes, avec toutes ces créatures vivantes, les poissons, etc., tout ça, tout cela nous crie, comme disait saint Augustin, mais regardez plus haut que nous. Nous venons du Créateur, nous avons été créés par Dieu, et c'est Dieu qui nous a donné cette beauté, cette intelligence, etc. Nous sommes des créatures de Dieu, donc des créatures parfaites. L'animal est une créature parfaite. Nous, on a une zone qui nous est laissée à notre liberté. Nous ne sommes pas définis. Tandis que les animaux sont tous définis, ils ont leur code, ils ont été créés comme ça et ils agissent d'une manière parfaite. Et nous, ils peuvent nous montrer un peu l'exemple aussi. Hein. Ils font exactement ce qu'ils doivent faire. Voilà, c'est un peu un chemin pour nous aussi. La contemplation de tous ces animaux, de la création, de la nature, c'est une merveille. Quand on dit, mais bon, voilà... Oui, comme vous disiez tout à l'heure, bon, tout ça est venu ou par hasard, ou c'était comme ça, mais ça ne veut rien dire du tout, ça ne veut rien dire du tout. Quand on regarde chaque créature, depuis des milliers d'années, bon, c'est formidable. Il y a que Dieu qui peut faire des choses pareilles.
Il y a un architecte derrière.
Comment ?
Il y a un architecte derrière.
Il y a un grand architecte, mais un architecte plein d'amour. Quand on regarde un petit oiseau, par exemple, il a tout ce qu'il faut, son bec pour se nourrir, ce qu'il faut pour prendre ses œufs, pour faire son nid. Il a des ailes pour s'envoler, pour se défendre s'il est poursuivi par un rapace. Il a tout ce qu'il faut pour vivre, vraiment. Chaque créature a tout ce qu'il faut pour vivre.
Surtout dans son évolution, il s'est adapté.
Oui.
On s'adapte à notre environnement.
Oui.
Et qu'en est-il de l'être humain, de l'homme et de la femme? Parce que là, on a parlé des petits insectes et des petits oiseaux.
Mais c'est
l'état de conscience.
C'est-à-dire que l'homme et la femme, ils ont reçu... en partage, la liberté. Ça, c'est ce que les animaux n'ont pas. Et la liberté, Dieu sait si c'est important. Hein. C'est ce qui nous fait ressembler au Créateur le plus. Dieu est libre d'aimer et tout ce qu'il fait, c'est librement. Donc ça a une valeur formidable. Voilà.
Cette question de l'évolution, la foi et la raison ne s'opposent pas. Ils se complètent. Et donc, l'évolution, c'est vrai. Il y a l'évolution parce qu'il y avait le commencement. S'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas d'évolution. Donc, ce commencement, qui a fait ce commencement pour évoluer? Et moi, j'ai fait un cours, vous voyez, nous sommes les sœurs modernes, parce que j'ai fait une fois un covoiturage de Rodez jusqu'à Paris. À côté de moi, il y avait un étudiant scientifique. Je trouve que c'était merveilleux parce que pendant tout le voyage, il m'a posé une question, justement, ce que vous avez dit. Ma sœur, je suis étudiante scientifique et vous croyez la Bible qui parle de la création telle que? J'ai dit, tel que oui, mais quand même, vous ne croyez pas cet hasard ou l'évolution, tout ça. J'ai dit, mais si, nous ne refusons pas de l'évolution, mais seulement, ce n'est pas la Bible qu'on a parlé de la création, ce n'est pas évoluer comme un jour, comme ça, comme tel que, mais seulement, il monte, il donne un message en disant qui est l'auteur de ce commencement. Et du coup, quand il y avait une cause de commencement, et c'est là qu'il évolue, et nous, les chrétiens, qui reçoivent sur la foi fondée, et on reçoit l'évolution, la science. Et du coup, tout au long du voyage, j'ai discuté en disant, oui, mais quand il y a quelque chose, quand même, il y a la cause première. La cause première, il faut voir d'où ça vient.
Verbe.
Voilà.
Le commencement était le verbe.
Voilà, d'où ça vient. Voilà. Et du coup, si Dieu crée vraiment le monde, nous, en tout cas, les croyants, que Dieu a créé, et quand il a créé, comme sur le Béatrice, c'était par amour, pour donner la vie. C'est ce qui est plus ressemblance à Dieu. Et du coup, dans toute la nature, qui parle de l'amour de Dieu.
Est-ce qu'on peut transformer la croyance en certitude?
Transformer, quand on a croyance, on a la certitude, non?
Alors, votre cas particulier, il y a la foi. Donc la foi, c'est, on dit que la foi est aveugle, donc il y a une confiance... presque les yeux fermés. Tandis que la certitude, elle s'acquiert par l'expérience.
Ah oui, mais seulement les yeux fermés, ça veut dire la foi, on reçoit. Ce n'est pas parce que la transmission de la foi. Oui. Donc cette transmission de la foi, même si on ne voit pas, nous ne voyons pas, il y a maintenant il y a la télévision, mais on ne voit pas, ça existe. S'il n'y avait pas de... Comme on dit, la télévision, quand on parle de voilà, il y a un président coréen et on ne voit pas, mais on croit parce qu'on nous a dit. Et donc la foi, c'est transmis par la tradition de. Alors donc c'est la foi que nous avons reçue. Donc nous croyons ce que les personnes qui ont fait l'expérience de Dieu, ce que d'abord le Christ qui nous a donné cette foi. Et après, la croyance, comme vous avez dit, certitude. La certitude, c'est vrai, on voudrait. Prouver. Mais est-ce que on vit vraiment est-ce qu'on reçoit tout ce qu'on a prouvé?
Mais on peut laisser des questions et les réponses ouvertes, hein. Oui. Chacun a son chemin. Hein.
Oui. Oui, parce que nous avons dans la vie, nous avons comme deux lumières pour nous éclairer. Il y a la lumière de la raison qui nous éclaire sur beaucoup de choses, mais qui est quand même limitée. Et elle est relayée par la lumière de la foi qui nous fait aller beaucoup plus loin et qui nous fait adhérer à des vérités que nous ne voyons pas forcément, bien sûr, mais voilà, la foi et la raison, ce sont deux grandes ailes pour aller vers Dieu.
Donc vous venez de dire quelque chose d'important, Luc et Béatrice, parce que je crois que les gens de l'extérieur, ils veulent porter un jugement, ils veulent savoir. Je crois que des fois, il faut rentrer dans le sujet, et si on se laisse nourrir par ce que vous appelez la parole de Dieu, dans la Bible, par exemple, notamment le Nouveau Testament, qui est quand même beaucoup plus compréhensible par nos raisons à nous. Mais je crois que là, on reçoit de par notre cerveau, de par notre intelligence, donc, mais on reçoit aussi dans notre intérieur profond des certitudes. On reçoit des éclairages. Et la foi se nourrit de ce que nous pouvons cueillir par les bontés de notre Seigneur, qui, lorsque nous tournons vers lui, il est là, par l'Esprit Saint. Je dis des bêtises, là.
Si, justement, vous parlez de l'Esprit Saint. Donc, en tout cas, la création, on a parlé du Créateur, et justement, nous, nous sommes créatures qui est vraiment aimée de Dieu. C'est ça qu'il faut. Et aussi, parce que vous avez parlé aussi de... Voilà, entre la foi et la certitude. Et saint Augustin a dit, on ne croit pas parce qu'on comprend, mais il faut d'abord croire pour mieux comprendre. Et voilà, donc c'est ça, la confiance, je pense, dans la foi. Et en même temps, quand on parle de l'Esprit Saint, moi, je pensais aussi à tous les saints. Hein, quand on parle de l'habit des saints. Justement, le Seigneur nous a donné tous les baptisés qui est appelé à la sainteté. Et cette vie des saints, ça veut dire vraiment nous sommes les saints et habités par Dieu, par l'Esprit Saint.
C'est ça.
Oui. Alors donc, c'est le rôle de l'Esprit Saint qui continue à faire
dans la personne
dans l'Église. Voilà. Donc nous, les croyants, il faut essayer d'écouter l'Esprit Saint qui nous mène à l'amour, parce que l'Esprit Saint lui-même s'appelle amour.
Et n'avez-vous pas eu des doutes dans votre vie sur votre choix? Est-ce que votre choix, vous l'avez jamais suspecté? Est-ce que vous l'avez rejeté? Avez-vous eu des doutes après avoir pris la décision de devenir religieuse?
Oh non, non, moi, ça ne remettait. Personnellement, je n'ai jamais remis en question ma foi. Ça aurait pu être, hein, mais.
Êtes-vous heureuse?
Comment?
Êtes-vous heureuse?
Très heureuse.
Et alors, j'ai une question là qui est un peu indiscrète, mais avez-vous envie d'avoir des enfants?
Eh bien. Oui, peut-être, ça a pu me traverser un peu la tête ou le cœur, mais vous savez, nous avons des vies
totalement
qui sont
donné à Dieu, quoi, c'est ça.
Très intenses et, si vous voulez, où on se donne, c'est ça. Avoir des enfants, c'est d'avoir des créatures pour lesquelles on se donne. Et ça, on le retrouve partout, finalement. Hein.
Autrement dit, oui, c'est ça.
Pardonnez-moi, d'accord. Nous allons faire une petite pause musicale. Et c'est encore de l'anglais. Once you had gold, ça veut dire à un moment vous aviez de l'or. Et mais qu'en avez-vous fait ? Michel, je t'en prie.
Oui. Chers auditeurs de CFM Radio, bonjour. Vous êtes toujours, pour ceux qui prennent l'écoute, Vous êtes à l'écoute de Visa pour l'inconnu sur CFM Radio. Nous recevons aujourd'hui deux religieuses qui nous ont conté de belles choses, qui nous ont raconté leur vie, ce qu'elles pensent de la vie actuelle de plus tard. Alors,
en conclusion, presque, parce que notre émission est passée tellement vite à vous entendre et de nous passionner par vos propos, au commencement était le Verbe. Et vous faites une promesse de vie éternelle. Donc, il y a un début et il n'y a pas de fin. Comment vous expliquez ça?
Pour l'homme, on a besoin quand même un commencement. Pour Dieu, non. Dieu a créé, Dieu a commencé, c'est pour nous, ce n'est pas pour Dieu. Dieu est éternel. Mais justement, pourquoi il a fait ce commencement? C'est parce que justement, pour que nous entrions dans l'éternel. Et donc, quand nous sommes vraiment avec Dieu, on est déjà dans l'éternel.
Ah, c'est...
L'éternel n'est pas seulement au ciel, au-delà, mais l'éternel commence déjà sur la terre si on est vraiment en vie avec Dieu.
Alors, un petit mot juste, parce que mon ami Didier me dit que c'est terminé. Est-ce qu'on peut vous entendre pour nous dire comment voyez-vous notre société? Notre société rejette Dieu pour... Mais, si on rejette, on ne peut pas découvrir. Comment voyez-vous le devenir de notre société actuelle?
Notre société, on la voit un peu par les médias, et quand on ouvre la télévision, c'est souvent toutes les mauvaises nouvelles qui arrivent, le narcotrafic,
oui, d'accord,
etc.
Alors...
Bon, voilà. Bon, et donc, on a une idée de la société qui est quelquefois un peu noire, un peu négative. En fait, quand on regarde les choses d'un peu plus près, il y a des quantités de choses magnifiques qui se font dans le silence et dans le loin du bruit et de toutes les bavardages qu'on peut entendre ici ou là. Il y a beaucoup de bien. Hein. Et donc, quand on voit ce renouveau spirituel actuellement, on peut pas dire le contraire. L'homme est fait pour le bonheur, il est fait pour le bonheur pour toujours, comme dit sœur Marie-Thérèse.
Vous disiez pendant les coupures musicales qu'il était possible de visiter le couvent de Monteil.
Oui, bien sûr, nous sommes prêts à accueillir tous ceux qui souhaiteraient découvrir un peu l'extérieur et l'intérieur de ce grand immeuble un peu, qui se prépare d'ailleurs par quelques travaux à faire de l'accueil.
Écoutez, nous sommes parfaitement ravis de vous avoir écouté, entendu, passionné comme vous l'êtes, et vous nous avez donné l'envie de ne pas conclure cette émission, tout comme les promesses que la vie éternelle propose à chacun d'entre nous. Donc il n'y a pas de conclusion, mais il y a une musique de fin. Merci à chacune de vous pour toute l'attention que vous avez portée à communiquer votre passion. Voilà, mon cher Michel.
Eh bien, on va leur dire merci d'être venu et peut-être à plus tard.
Mais un mot, merci pour tous ceux qui écoutent cette radio. Nous avons commencé déjà à prier pour ceux qui écoutent et nous continuerons de prier pour vous et pour tout le monde. Et soyez indulgents pour moi, pour mon français.
Oh, ben ça va.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci à vous.